20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Alors que les salles ne sont toujours pas accessibles au public et que les concerts se savourent à la radio ou en ligne, nous accueillerons ce soir Hervé Boissière, le directeur de Medici.tv, et nous ferons le point avec lui sur l'importance du streaming, sur son impact auprès des mélomanes frustrés par le confinement et sur les grands rendez-vous à l'affiche de cette riche plateforme de concerts. Et puis avec Thierry Hillerito du Figaro, nous nous intéresserons à un jeune quintet de cuivre. Mais tout d'abord, quelques nouvelles du monde musical. Un monde musical en colère en ce moment, face à la fermeture des salles de concert. La violoniste Anne-Sophie Mutter, qui depuis plusieurs semaines donne des récitals dans des églises pour collecter des dons en faveur des musiciens allemands touchés par la crise. Anne-Sophie Mutter donc s'est émue lors d'une interview accordée à une radio allemande de la situation, d'une situation qu'elle juge injuste et paradoxale dans la mesure où les lieux de culte reste accessible alors que les lieux de culture sont fermés au public. Il faut garder à l'esprit, dit-elle, que 95% des artistes allemands vivent sous le seuil de pauvreté. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est à sa ville natale, la ville de Rome, que Cecilia Bartoli rendra hommage au printemps prochain à l'occasion de l'édition 2021 du Festival de Pentecôte de Salzbourg, dont elle est la directrice artistique et dont elle vient de nous révéler la programmation. Une édition qui mettra donc à l'honneur des compositeurs romains, mais aussi des compositeurs ayant séjourné à Rome ou ayant été profondément influencés par la ville, tel Händel dont l'oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno ouvrira le festival. Rendez-vous donc à Salzbourg du 21 au 24 mai et cela fait du bien de se projeter. De la musique italienne résonnera également l'été prochain au Corégie d'Orange dont on vient également de découvrir la programmation. Plusieurs spectacles qui devaient y être donnés l'année dernière et avaient été annulés en raison de la crise sanitaire seront à l'affiche, comme le Samson et Dalila de Saint-Saëns, l'hommage du Béjart Ballet de Lausanne au groupe Queen ou encore le concert de Cecilia Bartoli avec les musiciens du Prince de Monaco. Et puis de nouveaux spectacles également seront à l'affiche, dont une nuit italienne avec le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan. Ce sera le 24 juillet, avec au programme des ouvertures et des chœurs de Giuseppe Verdi, dirigé par Riccardo Chailly. Les Corégies d'Orange se tiendront donc l'été prochain, du 18 juin au 31 juillet.
Le journal du classique sur Radio Classique.
On célèbre aujourd'hui même les 250 ans de Beethoven, même si des incertitudes subsistent quant à la date exacte de sa naissance, à savoir le 15 ou le 16 décembre 1770. Alors Beethoven est cette semaine tout naturellement au cœur de nombreuses publications discographiques. Parmi ses nouveautés, un programme assez original que l'on doit au flûtiste Emmanuel Pahut, un album qui vient de paraître chez Warner, qui met à l'honneur des pages de musique de chambre, pas forcément connue mais pleine de charme, associant la flûte à différents instruments. Emmanuel Pahut s'est associé pour l'occasion à quelques prestigieux musiciens, le pianiste Daniel Barenboim, le violoniste Daishin Kashimoto, l'altiste Amiaï Grosch, la bassoniste Sophie Dervaux et la flûtiste Sylvia Carédou. Un programme enregistré en juin dernier à la Philharmonie de Berlin. Thank you. Une délicieuse sérénade pour flûte, violon et alto de Beethoven par Emmanuel Pahu, Daishin Kashimoto et Amiaï Gross. Un extrait de ce tout nouvel album d'Emmanuel Pahu, entièrement dédié à Beethoven. Cela vient de paraître chez Warner.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Depuis le début de la pandémie, alors que les concerts se jouent sans public, nous sommes de plus en plus nombreux à nous reporter sur l'écoute en ligne et en particulier sur Medici.tv. Alors cette plateforme, le Netflix du classique, a-t-elle vu elle aussi son audience se développer tout au long de cette année 2020 ? C'est la première question que j'ai posée à son directeur, Hervé Boissière, notre invité ce soir.
Et oui, on a clairement vu une audience plus nombreuse depuis le début du confinement, surtout lors du premier confinement d'ailleurs. On constate une vraie différence entre celui du printemps et celui malheureusement répété à l'automne. Mais globalement, en effet, on va connaître une année 2020 forte sur ce sujet de l'audience. Évidemment, ça ne compense pas et ça ne console pas de toutes les annulations qu'on a dû gérer et subir, puisque évidemment, depuis plusieurs mois maintenant, on jongle avec les annulations, même si on a réussi quand même à monter pas mal de projets à huis clos, des alternatives vraiment très très intéressantes, mais c'est sûr que la programmation a été complètement bouleversée comme partout dans le monde.
Quels sont les premiers artistes qui se sont prêtés à cet exercice du huis clos ?
Alors le tout premier, ça a vraiment été Daniel Barenboim, on a discuté vraiment, je crois, une semaine ou 10 jours après l'annonce du confinement et de la fermeture des salles, fin mars, début avril en fait. Donc ça a été vraiment la première opération initiative que nous avons eu la chance de monter et de diffuser, le concert de chambre avec Daniel Barenboim à Berlin. Et puis après, on a créé une série à Paris, à la Fondation Saint-Germain-Polignac, avec 14 concerts, une sorte de festival avec de très grands, des très beaux artistes, avec Benjamin Bernheim, avec le Quatuor Rebelle, Renaud Capuçon, Alexandre Kantorov, Lucas Debargue. Enfin, il y avait vraiment une très très belle affiche et on a continué cet été, bien sûr, avec plusieurs galas avec des grands chanteurs, Sonia Yantcheva, Juan Diego Flores, voilà, endeuillé-la-zone. Enfin bon, voilà, on a essayé, en complément des quelques productions qui restaient, pas des moindres, hein, parce qu'on a eu quand même la chance de travailler à Salzbourg, puis de faire une rentrée d'orchestre en septembre quand les salles avaient rouvert. Voilà, donc globalement, on arrive quand même à tenir notre mission et notre promesse de partager avec le plus grand nombre les meilleurs artistes et les meilleurs événements musicaux de la planète.
Alors, ces concerts à huis clos sont en général plus courts que les concerts traditionnels, ils n'ont pas d'entracte. Est-ce qu'ils sont, selon vous, encore plus compatibles avec des formats de concerts en ligne, en tout cas encore plus compatibles avec l'écoute que l'on peut avoir de concerts en ligne?
Je crois pas vraiment. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu sur Medici des durées d'écoute, des durées de visionnage impressionnantes, excellentes, hein, puisqu'on a des visionnages moyens de 40-45 minutes. Donc, on a toujours eu une partie très importante de notre public qui suivait les concerts de A à Z, avec des formats donc plus longs, en effet, avec des temps de pause comme les entractes. Alors, on voit, il y a plus de monde globalement, donc c'est vrai qu'on voit que les statistiques montent. Je suis pas certain que le format ou la durée des concerts ait un impact direct. Ce qui compte, comme toujours, c'est la qualité des propositions des artistes, des programmes. Ce qui est sûr, c'est que ça démocratise l'usage, ça c'est évident, on le voit depuis le début de cette crise. Mais après, je pense que les gens ont toujours autant d'envie et de plaisir. On le voit avec l'opéra, par exemple. On a fait là quelques opéras à huis clos, à Madrid ou à Vienne, et on avait des durées d'écoute spectaculaires, puisqu'il y avait vraiment des gens qui regardaient la totalité du spectacle. Donc c'était 3 heures devant sa télé ou son ordinateur.
Alors le streaming s'est particulièrement développé depuis quelques mois, depuis le confinement, du streaming payant sous forme d'abonnement, comme pour Medici, mais aussi du streaming gratuit. Quel impact peut avoir, selon vous, Hervé Boissière, la gratuité, non seulement sur des plateformes comme la vôtre, mais aussi sur notre consommation, entre guillemets, de la musique classique, du concert?
C'est vrai que ça pose une vraie question sur le consentement à payer, en fait, parce que là, autant c'était essentiel, indispensable de garder le lien, de continuer cette relation entre les artistes et les communautés publiques, hein, notamment pour les salles qui étaient fermées. C'était vraiment très important pour qu'ils continuent à proposer quelque chose. Donc ça, on le comprend tout à fait, et on voit que d'ailleurs, ça a plutôt fait beaucoup de bien, hein, pour les artistes et pour le public. Après, la grande question, évidemment, c'est sur le long terme, hein. Il faut être très vigilant sur ne pas créer une habitude qui serait bonne pour personne, en fait, hein, parce qu'à un moment donné, il faut que tout ça retrouve un modèle économique, donc pour les artistes d'abord, hein, puisqu'ils sont déjà très, très affectés et très privés de concerts, donc de cachets. Donc, il faut veiller à ce que ces enregistrements soient gardent leur valeur économique. Hein. C'est pour ça que nous, on défend à tout prix l'abonnement, parce que c'est une façon de pouvoir réinvestir, de pouvoir accompagner les artistes, de pouvoir développer des carrières. Donc, je dirais que c'est encore un peu tôt. Là, aujourd'hui, on est en plein dans cette crise dont on ne connaît pas vraiment la fin, d'ailleurs. Il faudra tirer les conséquences. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que le gratuit n'est pas un modèle, hein, ça ne peut pas durer très longtemps. Donc, quelque part, ça aura fait œuvre de pédagogie sur ce sujet. Et puis, surtout, il faudra voir comment les spectateurs réagissent et s'organisent une fois la crise terminée. Et c'est évident que le consentement à payer doit rester une de nos priorités. Il faut que, bien sûr, pour garantir la qualité, garantir aussi la prise de risque, hein, tout simplement, parce que c'est facile de partager une symphonie de Beethoven gratuitement, mais dès l'instant où on va sur des répertoires plus exigeants, sur des artistes moins connus, des jeunes talents, il faut qu'il y ait un modèle derrière, et on en a plus que jamais besoin. We'll be right back.
extrait de la 5e symphonie de Prokofiev par Ivan Fischer et son orchestre du Festival de Budapest en concert, un concert capté en novembre dernier à Budapest et en diffusion sur Medici.tv. Alors, quels sont les événements à venir en cette fin d'année sur Medici? Hervé Boissière nous dit tout ce soir.
On a essayé de créer un espèce de festival pour remplacer beaucoup d'événements qu'on avait prévus en direct, évidemment, et qui ne peuvent pas avoir lieu, malheureusement. Donc, on a continué de produire nous-mêmes. Donc, pour cette journée Beethoven, évidemment, pour ce jour anniversaire du Grand Ludwig, on a un très joli projet, je crois, qui nous ressemble beaucoup, puisque Renaud Capuçon a eu la très belle et généreuse idée de réunir à ses côtés 9 jeunes violonistes français et 9 pianistes jeunes français, et de leur demander d'interpréter chacun une sonate pour violon et piano de Beethoven. Donc on va proposer l'intégrale des sonates, les 10 sonates, avec à chaque fois une proposition artistique différente. Donc c'est très intéressant et très enrichissant de voir les différentes propositions, les différentes esthétiques. En tout cas, il y a un niveau qui est hyper impressionnant. Donc ça, c'est un événement qui, je crois, symbolise assez bien le travail de fond que nous faisons à la fois auprès des très grands artistes établis, comme Renaud Capuçon, et puis de mettre la lumière sur des musiciens moins connus, mais qui le seront beaucoup demain. Donc on a cette intégrale des sonates pour violon et piano, et puis on a évidemment réuni toute une programmation Beethoven avec toutes les symphonies, les concertos, Fidelio, la Lista Solennis, enfin tous les grands chefs-d'œuvre sont là, la musique de chambre, les quatuors. Et puis après on travaille énormément de choses, de nouvelles acquisitions, c'est-à-dire des nouveaux programmes qui rejoignent le catalogue. Il est déjà très riche, on a plus de 1800 programmes aujourd'hui, mais on a des très jolis nouveaux programmes avec, alors toujours sur Beethoven, on a le Fidelio un peu mythique à Zurich avec Kaufmann. On aura un récital complètement inédit qui vient d'être enregistré à Genève avec Grigori Sokolov. Beaucoup de ballet aussi, bien sûr, parce que voilà, c'est une période de fête et donc on aime beaucoup la danse. Voilà, en tout cas, de l'opéra, des concerts, symphoniques, récitals, musique de chambre, des très grands ballets pour les fêtes. Et puis, on a encore quelques espoirs de live quand même, hein, toujours à huis clos, mais sur cette fin d'année, un ou deux concerts qui sont toujours programmés et qu'on va essayer de mener jusqu'au bout pour pouvoir aussi avoir cette émotion du direct et en cette période si compliquée, montrer que c'est toujours possible.
Et avec des événements live pour la fin d'année, pour un concert du Nouvel An par exemple?
Voilà, tout à fait. Là, on essaye de... Enfin, on va aboutir avec le gala de Dresde, dirigé par Christian Timmermann, pour le soir du réveillon. C'est un rendez-vous extrêmement prestigieux avec des grands solistes, Piotr Pechala notamment. On l'a déjà fait il y a quelques années, hein. On essaie d'en faire un rendez-vous régulier maintenant pour les fêtes sur Medici. Donc ça fera notre Sylvester Concert, comme on dit. Et puis il y a même encore quelques discussions pour éventuellement un ou deux autres événements. Ce qui est incroyable, c'est les changements permanents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut travailler un projet le lundi, qui s'annule le mardi, qui revoit le jour le mercredi, puis qui est en danger le jeudi. Il faut être d'une grande, grande flexibilité en ce moment, puisque les conditions de travail sont totalement bouleversées. Mais bon, nous, on tient bon, on essaye à chaque fois d'être toujours disponible pour donner la parole aux artistes. Et même si c'est une opportunité de dernière minute, on pense que c'est très important de la saisir, de permettre justement que la musique ne s'arrête jamais, que ce silence de salle fermée soit contourné, parce que c'est ça qui est terrible. C'est ce silence, ces portes fermées, et une plateforme comme Medici doit justement montrer qu'il y a la place pour faire encore et toujours de la musique.
Oui, c'est vrai que grâce à Medici, entre autres, la musique vivante continue malgré la fermeture des salles et malgré toutes nos frustrations. Merci beaucoup Hervé Boissière, merci infiniment. Et on suivra avec beaucoup d'attention tous ces nouveaux événements sur Medici. Merci beaucoup.
Merci.
Quelques notes de la 10e sonate pour violon et piano de Beethoven par Renaud Capuçon et Alexandre Kantorov. Un extrait de cette intégrale des sonates pour violon de Beethoven à découvrir sur Medici.tv. Intégrale qui met à l'honneur, aux côtés de Renaud Capuçon, la fine fleur de la nouvelle génération du violon et du piano français.
Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, vous nous parlez d'un quintet, mais un quintet pas comme les autres.
En effet, oubliez le son ouaté traditionnel du quatuor à cordes, auquel on ajoute un alto. Les cinq musiciens à l'honneur ce soir, dans Nouvelle Génération, sont bien de la même famille instrumentale, mais leurs cordes sensibles, à eux, eh bien ce sont les cuivres. Et les leurs ne manquent ni d'air ni d'éclat. En témoigne le nom de l'ensemble, le Local Brass Quintet. Local, vous allez me dire, Laure, peut-être parce que ces Parisiens qui se sont connus sur les bancs du CNSM prônent l'ancrage territorial, le circuit court, la culture locavore. Eh bien non, local, parce que le local, c'est tout simplement le nom du bar qui se trouve juste en face du conservatoire, avenue Jean Jaurès. Une anecdote qui en dit long sur la franche camaraderie qui présida à la création de ce quintet en 2015.
Quintet que l'on retrouve depuis hier à l'affiche d'un nouveau festival numérique.
Oui, le festival Musique et Danse de la Caisse des dépôts qui soutient le Local Brass Quintet au titre de jeune talent. Un festival que propose depuis la semaine dernière le Théâtre des Champs-Élysées sur sa chaîne YouTube en attendant sa réouverture, on espère, en début d'année. Au total, ce sont 6 concerts mettant en scène de jeunes artistes tournés ce mois-ci sur la scène du théâtre et qui seront accessibles pour une durée d'un an. L'occasion de donner un peu de voix et de couleur à ces talents émergents qui, pour beaucoup, auraient dû connaître en 2020 la consécration ou tout au moins la confirmation d'une carrière débutée sur le chapeau de roue mais réduite au silence par la crise sanitaire. C'est le cas des membres de ce Local Brass Quintet qui, en 2019, après avoir été couronné par le 3e prix du Festival de musique de chambre d'Osaka au Japon et avoir brillamment terminé leur master de musique de chambre au CNSM, venaient de sortir leur tout premier album, Stay Tuned, chez Clart, un disque mêlant des transcriptions pour leur formation de pièces d'inspiration latine, comme les Vals Poéticos de Granados ou la Danzone numéro 2 de Marquez, un hommage au parcours du trompettiste de l'ensemble, Javier Rosetto, issu d'El Sistema au Venezuela. Mais on y trouvait aussi des compositions originales pour quintet de cuivre, comme la sonate du Britannique Derek Bourgeois, ou des commandes spécifiques aux compositeurs Thomas Senko et Jean-Claude Jean-Jambre. Un programme libre, imaginatif, gorgé de soleil, un programme qui met surtout idéalement en valeur la rotondité de l'ensemble et l'homogénéité de leur son. Cette homogénéité, c'est, vous le savez, la chose la plus difficile, mais en même temps la plus essentielle, le mot est à la mode, pour les quintettes de cuivre qui doivent souvent s'approprier des partitions écrites pour d'autres formations, notamment pour quatuor à cordes ou pour piano.
Et un travail d'appropriation qui est justement au cœur de ce concert.
Et oui, car après les couleurs chaudes de leur premier disque, place ici à une toute autre atmosphère, celle des harmonies impressionnistes de Debussy et Ravel, l'occasion de saluer le travail remarquable de leurs arrangeurs, au premier rang desquels le chef et compositeur Gabriel Philippot, mais aussi l'extrême précision d'intonation et la qualité d'écoute sans faille de nos 5 cuivres mousquetaires, leur relecture de La fille aux cheveux de lin, un morceau emblématique de l'ensemble qu'il a mis au point il y a plusieurs années, est absolument bluffante de poésie. Vous ne serez pas surprise, Laure, si je vous dis que nos jeunes souffleurs sont tous individuellement à l'orée d'une belle carrière instrumentale, qu'il s'agisse, outre Javier Rosetto, du trompettiste François Petitpré, du corniste Benoît Côté, de Romain Durand au trombone ou bien au tuba de Tancred Zimmermann. Tous affichent déjà un palmarès enviable, ayant collaboré ou faisant partie d'orchestres ou d'ensembles spécialisés aussi prestigieux que l'Orchestre National de Montpellier ou de ZE2M. Alors en attendant de les retrouver en 2021 sur scène et dans les bacs, puisqu'ils ont profité de l'été dernier pour enregistrer leur second disque, Mon petit doigt me dit qu'il y sera question de Debussy et de Ravel, eh bien je vous propose de les découvrir ici chez Marquez dans cette Danzone numéro 2, la pièce étendard du Local Brass Quintet.
la célèbre Danson numéro 2 d'Arturo Marquez par le Local Brass Quintet. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de ce jeune quintet, dernier portrait de l'année. On se dit donc à l'année prochaine, passez de très belles fêtes.
À l'année prochaine, belle fête à vous aussi Laure.
Merci. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie du jeune et brillant chef finlandais Klaus Mäkelä, qui vient de diriger une somptueuse 9e symphonie de Mahler avec l'Orchestre de Paris à la Philharmonie, un concert que nous diffuserons dimanche sur Radio Classique. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.